Radio Grand Ciel, histoire et mémoire d'Eure-et-Loire. À la technique Jean-Marie, à l'animation André. Nous recevons pour la deuxième fois Jean-Claude Galerne qui nous avait parlé de l'aviation avant la guerre et pendant la guerre. On avait terminé sur la chute d'avions du côté de Courtalain. Donc on a vu les deux premiers, on va voir, il va nous dire un peu ce qui est arrivé au suivant, et puis ensuite, enfin, on verra le camp de Bellande qui a été obligé d'être créé à cause des nombreux aviateurs qui tombaient, en fait. Voilà, bonjour Jean-Claude.
Bonjour, alors nous avions donc laissé notre équipage, donc l'avion de Drouet-Courtalain, il y avait deux hommes qui avaient réussi à s'échapper, et évidemment l'équipage étant composé de cinq hommes, il y en a deux autres qui sont échappés. Donc il y a notamment Upton, qui était donc un des mitrailleurs, alors Gilles, mais qui n'avait pas besoin de mitrailler parce qu'il jetait des tracts. Il est donc, lui s'est enfui vers Loches, il est parti vers le sud. Donc tout à l'heure, notre collègue est parti vers le nord, un autre vers la Suisse, lui il est parti vers le sud. Et évidemment, le problème qu'il a rencontré, la ligne de démarcation vers Loches. Mm-hmm. Et donc c'était pas facile de passer. Donc il a été aidé par les résistants du secteur, et notamment par le postier qui lui a fait traverser la ligne dans la voiture de la poste. Il était caché dans la voiture de la poste. Il a été se cacher chez la comtesse de Poix. Et la comtesse de Poix avait son fils qui travaillait déjà dans la résistance. Et elle a caché ce jour-là, elle avait cinq aviateurs. Et à Noël, donc, à Noël 43, notre garçon Upton, le sergent Upton, a donc passé Noël au château de Poix avec Monique de Briey, qui est une des grandes convoyeuses sur Châteaudun, pour le camp de Bellande, qui a convoyé beaucoup sous le pseudonyme de Michel. Donc c'était Monique de Briey. Et puis Georges d'Outremont, qui était aussi un autre Belge, ils étaient là à dîner. Et la veille, ils avaient dîné chez Maxime à Paris, Georges d'Outremont, avec Jean de Blumer, dont on parlera encore, au milieu des officiers allemands. Et ils avaient notamment à leur table un monsieur que tout le monde a connu, puisqu'ils avaient un ami à Paris qui s'appelait Jacques Chabon-Delmas.
D'accord.
Et le dernier, c'est le pilote qui a sauté en dernier, comme toujours. C'est le lieutenant Kennedy. Étonnant, c'est John Fitzgerald Kennedy, mais ce n'est pas le président. C'en est un autre.
Ah, ils avaient les mêmes prénoms.
Ils avaient les mêmes prénoms. Donc il a sauté du côté de Fontaine-Raoul.
D'accord.
Et il a été, dans un premier temps, repéré par les Allemands. Mmh. Et puis les Allemands l'ont trouvé la nuit dans une lampe, ils ont vu un type qui était là, qui était plus ou moins ses vêtements déchirés, etc. Ils l'ont regardé, ils ont dit ça, bon, c'est encore un clochard, on s'en occupe pas. Et ils l'ont laissé tomber. Ils s'en sont pas occupés.
Il y en a qui ont de la chance quand même.
Tout à fait. Et notre lieutenant Kennedy a été repéré par les gendarmes, et notamment le gendarme Canizet. Et le gendarme Canizet a une histoire étonnante à Courtalain. Parce que lorsque les petites Vesbuche, lorsque leur maman juive, la femme du docteur Vesbuche, qui avait été déportée en 1942, donc vers l'Allemagne, il a été arrêté en 1942, déporté, et sa femme a été déportée quelque temps plus tard. Et il y avait deux enfants, une petite donc qui avait 2 ans et l'autre qui avait 6 ans, les enfants Vesbuche. Et le gendarme écrit sur le rapport de gendarmerie au crayon lors de l'arrestation de la maman. Les enfants sont cachés dans une famille amie. Il l'a écrit au crayon sur le rapport. Mm-hmm. Et c'est le gendarme Canizé. Et c'est ce gendarme-là qui va repérer le lieutenant Kennedy.
D'accord, il a de la chance vraiment, voilà. Ce lieutenant.
Voilà. Donc il va le récupérer. Il va le confier notamment au docteur Bietrix, qui était le médecin de Courtalain, qui était dans la maison où il y a eu longtemps le docteur Monceau, qui a été maire de Courtalain. Il va le ramener donc vers Courtalain. Ils vont le cacher à l'hôpital de Courtalain. Donc le réconforter, le cacher, et ensuite, ils vont le faire repartir par le train vers Paris. De Paris, il va, c'est ça qui est extraordinaire, de Courtalin, il va à Paris. De Paris, il revient à Cloyes par le train, où il va aller jusqu'à Bordeaux, et il va aller à Bayonne.
D'accord.
Et à Bayonne, il est confié à l'auberge Sugar, à Marpandiara. C'est là que passent tous les gens de Comète.
D'accord.
Et le fameux Florentino, c'est lui qui va le prendre en charge et qui va le faire traverser les Pyrénées.
Florentino, dont on a déjà parlé
lors
de la dernière émission. Nous allons prendre une pause musicale. Nous écoutons Verdi, Le cœur des Gitanes. Radio Grand Ciel, histoire et mémoire de la Loire. Nous recevons aujourd'hui Jean-Claude Galerne qui nous a parlé des deux derniers aviateurs donc, qui étaient tombés du côté de Courtalin. On va continuer sur d'autres aviateurs ou alors on...
C'est-à-dire nous arrivons à ce moment-là en janvier 1944.
Oui.
Et là, à partir de ce moment-là, le bombardement commande anglais, c'est bien modernisé.
D'accord.
Ils ont des radars, ils ont des marqueurs pour donc il y a des avions qui marquent les cibles pour les bombardiers en envoyant des fusées éclairantes de façon à avoir une plus grande précision. Bon, faut dire que 44 va être une année fondamentale de bombardement. Les Allemands vont payer un très lourd tribut, les civils vont payer un lourd tribut. Il y a en Allemagne 600 000 morts sous les bombardements. La ville de Dresde va être rasée. Il y a des femmes et des enfants, donc il y a 70 000 gamins qui sont tués. C'est absolument terrible sur le,
sur le plan humain.
Voilà. Et donc, ils ont beaucoup d'avions. D'abord, on produit des avions de façon... ils sortent des avions... pratiquement des chaînes, 30 avions tous les jours à un moment donné. Donc c'est colossal aux États-Unis. Et en 1944, donc il y a les fameux B-17 et B-24 qui interviennent régulièrement avec des Avro Lancaster. C'est ce qui ira d'avions de plus abattus dans la région.
D'accord.
Les Avro bombardant de nuit et la partie B-24 des Américains, c'est bombardement de jour. Donc on va avoir des avions qui vont être abattus en janvier 1944. On a 3 bombardiers B-24 en quelques jours d'abattus en Eure-et-Loir. On a à Inver. À Inver, il y a 6 évadés. C'est la famille Vouzelot qui va s'en occuper. La famille Vouzelot, très connue dans la région, qui va faire passer par le réseau Bourgogne, qui va faire passer donc ses aviateurs. Et Madame Vouzelot, un jour, en cachant un des aviateurs, tombe sur un poste allemand. Et elle a un incident, elle a un saut de chaîne. Donc, et qu'on voit un aviateur. Et elle était charmante, Madame Vouzelot. Et donc, il y a un des gardes allemands qui va la voir et qui va venir à son secours, qui va lui remettre sa chaîne. Hein, gentiment. Il ne s'occupe pas du passager qu'elle a avec elle. Il va s'occuper d'aider Madame Vouzelot pour lui remettre
sa chaîne de vélo.
Voilà, sa chaîne de vélo pour lui remettre en état. Donc, parce que c'est une agréable dame. Donc,
ouais.
Bon, c'est un garde qui a une vingtaine d'années.
Ouais.
Donc, sur un verre, on va réussir à les faire passer par le réseau Bourgogne, par les Pyrénées, sur le réseau Perpignan.
D'accord.
Et notamment, je disais tout à l'heure, Jean Olibeau, c'était Jacqueline souvent, qui la fameuse convoyeuse qui passait, et elle raconte quelquefois des incidents parce que en convoyant justement par le train ses vêteurs, elle les faisait manger au wagon restaurant parce que souvent ils mangeaient pas beaucoup. Et un jour, un de ses aviateurs, pas loin d'elle, était à la même table qu'un Allemand, et l'Allemand lui a demandé le sel en français. Et l'anglais, il ne comprenait rien du tout. Et elle a fait signe au type ce qu'il fallait qu'il donne. Alors elle lui a montré, elle était à quelques mètres de lui, elle a montré la salière. Hein, le type, il a donné la salière à l'Allemand, sans un mot. Et l'autre lui a dit merci. Elle dit heureusement qu'ils n'ont pas engagé la conversation. Donc il prenait des risques considérables. Par contre, les aviateurs étaient arrêtés, ça arrivait. Les aviateurs arrêtés dans les trains. Ils ne connaissaient pas les convoyeuses.
D'accord, ils n'étaient pas ensemble, quoi.
Ils n'étaient pas ensemble. Ils étaient toujours à quelques mètres. De façon à ne pas courir le risque.
Oui, ben, pas casser le...
Tout à fait. Alors, on a eu la même chose à Bouville. À Bouville, on a 10 morts à Bouville. Bouville, c'est quand même au nord de Bonneval. Là, ils sont écrasés, il n'y a personne,
il n'y a pas de survivants.
Assez souvent, dans des crashs.
Parce qu'il y avait combien de personnes dans ces avions?
Ça dépend. Sur le B-24, ils étaient 10.
D'accord.
Sur l'Abreu-Lancaster, ils étaient 7. Et souvent, il y a un huitième, ce qu'ils appelaient donc un brouilleur. C'est-à-dire, c'était un radio qui parlait allemand, qui se mettait sur la fréquence des chasseurs, et qui leur donnait de fausses informations.
D'accord.
Et c'est pour ça que lorsqu'on relevait quelquefois les équipages, on trouvait un huitième homme. Mmh. Et c'était le brouilleur.
D'accord.
Il y en avait dans les escadrilles tout le temps, qui donnait de faux renseignements aux Allemands.
Aux pilotes allemands.
Ils se mettaient sur la fréquence des chasseurs, et ils rentraient en conversation avec eux.
La guerre électronique.
Tout à fait. C'était déjà ça. Et à Orgères, nous avons eu, le même jour aussi, nous avons eu donc des pilotes qui ont été évacués. Ils ont été évacués par le réseau Picourt. C'était un réseau d'un pharmacien de Chartres qui les évacuait aussi, le réseau Picourt, qui travaillait ensuite avec le réseau Bourgogne. Par contre, ce réseau a été infiltré par l'agent de Soubrie et par la dame aux cheveux rouges, Madame Orsini. Ils travaillaient pour la Gestapo. Et ils envoyaient les aviateurs sur Paris. Et il les faisait arrêter sur Paris.
D'accord.
Et notamment, il y a eu le cas de 2 aviateurs qui ont été convoyés. Il y a un taxi qui les a pris à la sortie de la gare. Il les a emmenés à la Gestapo rue des Saussets. Il leur a dit, dans un anglais parfait, « Boy, vous êtes arrivés. » Ils étaient à la Gestapo. Le type les a déposés à la Gestapo. Donc, il y avait le fameux de Soubry a été fusillé en 1949 dans les fossés du fort de Montrouge.
D'accord.
Il a pratiquement donné 200 aviateurs.
Ah oui, quand même. Hein?
Donc il a été fugitif. Il s'était enfui en Allemagne. Donc ils l'ont récupéré. Alors il y a eu d'autres avions. À Saint-Léonard-en-Beauce, par exemple, à Saint-Léonard, c'est le 5 février 1944. Les avions viennent bombarder Châteaudun. Il y a un bombardement intensif sur Châteaudun.
Sur l'aérodrome et la gare.
La gare et le terrain d'aviation.
D'accord.
D'abord, il est arrivé une fois sur un des bombardements du terrain d'aviation que l'avion anglais est tombé sur un des hangars du terrain d'aviation.
D'accord.
Donc il a été abattu là, tombé là. Tous ne sont pas morts, il y a eu les prisonniers. Mais là, ils n'avaient pas de mal à les faire prisonniers. Ils étaient sur place.
Sur place, oui.
Donc il n'y a pas eu de... À Saint-Léonard, ce matin-là, le 5-2-44, il y avait un avion qui avait été attaqué justement par la chasse de Châteaudun, qui était en flammes. Il s'est abattu et il y a eu un seul survivant. Donc les Allemands ont récupéré les corps des autres et ils ont été enterrés à Blois. Ils ont été enterrés à Blois avec les honneurs militaires de la part des Allemands. Mmh. Ils ont rendu les honneurs à l'équipage qui était mort.
Mmh.
Donc il n'y avait pas... Par contre, ils ont cherché... Donc évidemment, il y avait un survivant.
Mmh.
Ils ont cherché, ils ont fini par le trouver. Et justement, ce survivant s'est retrouvé à Sagan, au fameux camp où il y a eu la grande évasion, des 10 000, là, il s'est retrouvé à Sagan.
D'accord.
Parce que quelquefois, ils étaient transférés, entre guillemets, par erreur à Buchenwald, mais s'ils étaient aviateurs, ils allaient vers un camp d'aviateurs.
D'accord.
Des camps qui étaient... Alors, les camps d'aviateurs étaient contrôlés par la Luftwaffe. C'est-à-dire que c'était des officiers, un officier supérieur de la Luftwaffe qui dirigeait le camp. Ce n'était pas les SS.
Donc, ils avaient un traitement de prisonniers.
Ils avaient un traitement de prisonniers. Et quelquefois, la Grande Évasion, et notamment un autre film qui est passé beaucoup à la télévision, qui était Papa Schulz, ce sont des parodies un petit peu. Mais c'était un peu ça. C'est-à-dire que c'était des aviateurs prisonniers, des officiers supérieurs, quelquefois, dirigés dans un camp qui était tenu par un officier supérieur de le même corps d'armes qu'eux.
D'accord.
Donc c'était complètement différent. Donc ils n'ont pas été, pour la plupart, ils n'ont pas été maltraités, sauf la malheureuse affaire de l'évasion de Sagan, où c'est Hitler lui-même qui a donc donné les ordres.
D'accord.
Sans informer du tout les officiers, donc le maréchal Kettel, qui dirigeait la Luftwaffe.
D'accord.
Donc sinon, il n'y a jamais eu d'exaction par rapport à ces pilotes.
Voilà, mais nous allons prendre notre deuxième pause musicale. Nous écoutons toujours Verdi. Alors, voilà. Thank you. Radio Ganciel, Histoire et mémoire de Réloir. Nous parlons des aviateurs tombés dans la région de Châteaudun, Cloyes et environ. Et donc, on va finir un peu par le dernier avion, c'est ça ? Et puis ensuite, on verra qu'on ne peut plus fournir, quoi. Il faut trouver une solution. D'abord, le débarquement va avoir lieu, ou a lieu, je ne sais plus. Enfin, tu vas nous dire ça. Et on ne peut plus se permettre de balader les aviateurs comme ça, je crois.
Alors justement, donc, le dernier avion qui est tombé, on peut dire, dans la région, ça va être l'avion de Danzé. L'avion de Danzé, donc dans le Loir-et-Cher, va amener une véritable hécatombe chez les résistants à Vendôme. Cet avion de Danzé, qui est piloté par le capitaine Austin, il va se planter à côté de Danzé, mais il va larguer évidemment tous ses équipages avant. Mmh. Et les premiers vont tomber à côté de Pezou. Les premiers tombent à Pezou, et pratiquement tout le monde les voit à Vendôme. Les Allemands aussi, d'ailleurs.
Mmh. Malheureusement.
Mais les Allemands ont cette qualité, et peut-être ce défaut, en même temps c'est une qualité, c'est qu'ils obéissent qu'aux ordres. Donc ils voient bien aux jumelles les gars qui tombent. Mais comme ils n'ont pas reçu de l'ordre d'aller les récupérer, mais ils attendent l'ordre. Donc c'est-à-dire qu'il va se passer un certain temps avant qu'ils aient l'ordre. Pendant ce temps-là, les résistants ont eu le temps de s'organiser, ils vont aller les récupérer. Et notamment, donc, Évrard, à côté de Pezou, Évrard, donc, va aller récupérer deux membres de l'équipage, qui va cacher, donc, c'est un B-24, on l'a dit, 10 personnes. Donc, on va les cacher dans différentes familles, mais pour ça, on va les ramener. Donc, il y en a qui sont à Rare. Donc, on va les récupérer à Rare. C'est un petit village à côté de la ville au clair. Donc, c'est Paul Galin, le marchand de meubles. Il y avait donc une réclame à l'époque, appelons le mot de l'époque. Paul Galin meuble bien. Donc, il avait ça sur sa camionnette. Mais à l'intérieur de la camionnette, c'était pas des meubles qu'il avait. C'était des aviateurs. Et le problème, c'est quand il a voulu revenir sur Vendôme, il y avait un barrage allemand qui fouillait les véhicules. Et donc, comme l'Allemand connaissait la camionnette Galin, il a dit à Galin, quand il est passé, Paul Galin, il a dit bonjour. Il dit, ah, vous livrez des meubles ? Oui, oui, qui dit je livre des meubles. En réalité, c'est les aviateurs qu'il avait dans la voiture. Donc, ils l'ont fait passer. Ils avaient l'habitude de le voir. Donc, ils ont dispersé dans Vendôme. Et notamment, ils étaient presque tous cachés à côté du pont à Vendôme, là, quand on rentre dans Vendôme, à côté du pont sur le Loir. Tous sur la petite place, là, tout autour. Il y en avait chez le dentiste, il y en avait chez Paul Galin, etc. Et, par contre, bien, ça s'est su. Il y a certaines jeunes filles qui disaient qu'elle pouvait apprendre l'anglais à pas cher. Et évidemment, il y a eu des grandes oreilles qui ont entendu cela. Et un jour, le 20 février, c'est-à-dire 15 jours après, les Allemands ont lancé une opération. Et ils ont arrêté un certain nombre de résistants, et notamment l'inspecteur de police Cordier, qui avait chez lui des Allemands. Et il semblerait que Cordier donc, ait parlé. Il les menaçait, sa femme et fils, etc. Bon, il aurait parlé. Et à ce moment-là, on va essayer d'arrêter tous les résistants. Et Paul Galin, ce jour-là, était parti voir un match de football à Vendôme. Et puis, quand il est revenu, il a vu qu'il y avait beaucoup d'Allemands à côté de chez lui. Là. Il s'est dit, oh là là. J'ai une solution, c'est de passer par la petite ruelle. Mais j'ai un problème, il y a un officier allemand qui habite dans la ruelle. Et il a une chance inouïe ce jour-là, c'est qu'il y avait une jeune Française qui faisait de la collaboration horizontale dans la chambre de l'Allemand. Et donc, il a pu passer sous la fenêtre sans se faire repérer. Et lui, il n'a pas été arrêté. Paul Dujardin n'a pas été arrêté non plus, parce que Paul Dujardin, donc, avait été informé par sa mère, il était en train de déjeuner à Mêlée, elle a envoyé quelqu'un le prévenir en disant « Fais attention, les Allemands sont là ». Donc Paul Galin il a fait dire « Attention, il faut faire disparaître les affaires de l'aviateur, la combinaison ». Et madame Donc Madame Durdin, donc la mère de Paul, a pris les affaires de l'aviateur, les a mis dans son panier où elle est allée à l'herbe au lapin. Elle a pris son couteau, elle est partie à l'herbe au lapin. Elle a acheté dans le Doir les affaires.
D'accord.
L'institutrice qui avait donc, qui parlait anglais, qui servait de relation, elle arrive chez elle et elle voit à travers la porte vitrée, elle voit les Allemands. Elle est sortie, elle a prévenu ses parents que les Allemands la cherchaient. Elle est partie et ses filles n'ont pas retrouvé. Elle est partie à Ouk. Et après, elle est venue se cacher en Eure-et-Loir.
D'accord.
Mais les parents, par contre, ont été arrêtés. Ils ont été cinq semaines à Blois, à la prison. Mm-hmm. Et il y a eu 21 arrestations. Et il y a 3 personnes qui n'en sont jamais revenues. Donc, il y avait de grands risques. Et à l'époque, Giron, qui était un des résistants importants, il avait une filière sur Tours. Mais la filière était dirigée par l'abbé Péan. Et l'abbé Péan venait d'être arrêté. Il a été torturé. Il est mort sous la torture, l'abbé Péan. Donc la filière était démantelée sur le passage. Parce que sinon, Giron l'aurait confié à Péan. Parce que ce qui est curieux dans cette guerre, ce qui est curieux, c'est que souvent, on a eu un travail extraordinaire fait par les curés et par les instituteurs.
Ouais.
Ils ont fait un boulot extraordinaire. Et les hussards de la République et les envoyés ont pris le Seigneur travaillaient ensemble pour la même cause.
D'accord.
Donc c'était assez extraordinaire. Et à partir de cet avion, on s'est dit il faut absolument faire autrement parce qu'il y a trop de casse. Mm-hmm. Tous les aviateurs ont été arrêtés, les 10 quand même.
Mm-hmm. Bon.
Donc il y a trop de casse. Et Londres, évidemment, avec le service de renseignement, ont pris des décisions et en confiant à un homme, à Jean de Bloemer, qui était donc quelqu'un d'important dans le réseau, de réfléchir à mettre un camp en place dans le triangle Orléans-Chartres-Le Mans. Et on lui dit ça au mois de mars 1944. Mmh. Et on ne lui dit pas pourquoi. On lui dit qu'il va falloir organiser un regroupement des aviateurs dans ce secteur-là. Donc lui, il ne sait pas qu'il y aura le débarquement, il n'en sait rien du tout.
Mais personne ne le sait, d'ailleurs.
Voilà. Mais les Anglais le savent.
Oui.
Et d'ailleurs, Rommel disait quelque temps avant à Hitler et à son état-major, si vous croyez que les Américains, parce qu'il parlait des Américains, si vous croyez que les Américains débarqueront en vous prévenant par beau temps, juste en face de l'Angleterre à Dieppe, vous vous trompez. Ils débarqueront un jour par un temps épouvantable en Normandie parce que vous ne les attendrez jamais là. Et ça sera un jour mémorable. Rommel disait ça.
Ouais.
Parce que Rommel pensait qu'ils allaient débarquer. Donc, il n'y a pas eu ce débarquement, c'est passé beaucoup plus tard, mais le service de renseignement a commencé à travailler. Et c'est vrai qu'on verra le camp de Belland, qu'on va commémorer fin juin, là, au 70e anniversaire. Il y a des aviateurs du camp de Belland qui ont été récupérés, qui étaient tombés dans le nord de la France en février 1944, alors que le camp ne sera ouvert que début juin. Ils vont
bien
se retrouver. Ils vont mettre plus de 3 mois pour venir du nord de la France à Belland. Mm-hmm. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Et on verra que ce camp a été extrêmement bien pensé. Et on a trouvé dans la région un homme dont on parlera beaucoup. C'est M. Jubeau, le gendarme de Cloyes, et tous les Dunois qui ont été des conseillers municipaux. Serein, Cognot, tous ces gens tout autour de la ville qui ont construit Belland.
Qui ont construit le camp de Belland, voilà. Dont on reparlera peut-être à l'occasion de l'anniversaire.
On en reparlera, bien sûr.
Voilà, au revoir et merci Jean-Claude.